Chapitre 5. D'où les New-Yorkais tirent-ils leur légendaire arrogance? Des temps d'avant, sans doute, de cette période à la fois proche et lointaine où New York, porte de l'Amérique toute-puissante, trônait sur le monde. Léo Danzig, journaliste au Matin des Parisiens. Cité unifiée de Nilopa. Une grande partie de la ville de New York, la mythique New York, fut englouti par le tsunami de 2056. En sortant de la gare souterraine du tube, on distinguait d'abord les sommets des tours à demi immergés. Les autorités de la ville les avaient consolidés en les enserrant dans d'énormes gangues de béton. Reliées les unes aux autres par des filins et des passerelles, parfois penchées, elles semblaient flotter sur les eaux verdâtres qui avaient recouvert un grand nombre de rues de Manhattan. New York y avait gagné un surnom, la Venise américaine, et pas mal d'ennuis. L'eau sapant les fondations de la ville continuait en effet de monter, de progresser vers l'intérieur des terres. Comme les filtres de sécurité interdisaient aux New-Yorkais d'élargir leur espace, la promiscuité engendrait une grande tension dans la population, la plus dense de Nilopa. La proportion des plombeurs y était nettement plus importante qu'à Paris et Londres, et la police, pourtant efficace, peinait à contenir les vagues de violence qui déferlaient régulièrement sur la ville. Je fus pris un jour dans l'une de ces lames surgissant de nulle part et balayant les rues et les places avec la violence terrifiante d'un tsunami. Je n'avais dû mon salut qu'à la bouche d'égout par miracle ouverte dans laquelle je m'étais jeté. Théodore et Ganesh remontaient l'avenue bordée d'un canal trop étroit pour contenir l'eau verte et sale qui léchait les gangues de béton. Les passerelles, jetées entre les immeubles, tissaient une gigantesque toile d'araignée où les passants ressemblaient à des insectes piégés. Des embarcations de toutes sortes glissaient silencieusement entre les vestiges des ponts. Des pompes aspiraient inlassablement l'eau pour les rejeter à l'extrémité de Manhattan, derrière la digue géante sur laquelle se fracassaient les vagues de l'océan. Les différents filtres teintaient le ciel d'une couleur oscillant entre l'ambre, le safran et l'oranger. Filtres plus anciens que ceux de Paris et de Londres, installés en 2098. C'est bien ce que je pensais, marmonna Théodore sans desserrer les lèvres. Les fouineurs de New York passent pour être les plus performants de Nilopa, mais ils n'en savent pas plus que nous sur les ombres. Ils n'avaient pas l'air très contents de nous montrer leurs archives, ajouta Ganesh. Il n'y avait pourtant pas grand-chose dedans. Ils avaient passé plusieurs heures dans l'un des bureaux des fouineurs new-yorkais de la 5e avenue, avaient même été reçus par le responsable de Manhattan, mais n'avaient trouvé aucun élément nouveau dans les réponses polies et patientes, hypocrites, selon Théodore, des grubs, comme on les appelait ici. Leur matrice pataugeait autant que celle des autres cités de Nilopa. Ils détestent avouer leurs faiblesses, comme nous d'ailleurs, reprit Théodore. On va manger un morceau? Je crève de faim. On ne devait pas rejoindre le maire? Il attendra. Lui ne se gêne pas pour nous faire poireauter. Elle a duré presque 10 heures, leur putain de réunion. Tout ça pourquoi? De vagues promesses de renforcement de la coopération entre 3 villes.
Ils s'arrêtèrent et s'accoudèrent au garde-corps d'une passerelle pour contempler quelques instants le spectacle de débardeurs déchargeant les marchandises d'une barge sur un balcon transformé en quai. Certains immeubles penchés semblaient attendre le coup de grâce pour s'écrouler définitivement. Ils étaient habités pourtant, et Ganesh se demandait comment leurs occupants aménageaient leurs intérieurs, avec des cloisons, des plafonds et des sols obliques. Les jurons des débardeurs éclataient comme des détonations entre les façades.
« Je n'ai pas bien saisi les enjeux du conseil, » dit Ganesh. « Dans le tube, le maire nous avait parlé de l'équilibre des forces. »
Les New-Yorkais étant les plus nombreux, ils estiment qu'ils devraient avoir davantage de poids dans les décisions concernant Nilopa.
Théodore retira son chapeau et secoua ses cheveux roux.
« Ce que craint le maire de Paris, c'est qu'ils nous prennent de vitesse sur le problème des ombres et qu'ils tirent profit de leur succès pour prendre le contrôle total de la CU. » Voilà pourquoi nos chers collègues de New York sont si peu coopératifs. À mon avis, ils refusent de nous donner accès à toutes leurs données. Ils se foutent de notre gueule. Ils nous cachent des trucs, quoi.
Ça te dit une bonne vieille pizza? J'aurais préféré un curry, mais s'il n'y a rien d'autre.
Je parie que tu as aussi un hôtel chez toi et que tu vénères des dieux.
Théo lança un regard soupçonneux à Ganesh.
D'ailleurs, ton nom, c'est pas celui d'une divinité hindoue?
Ils franchirent la passerelle et s'engagèrent dans une rue pavée, bordée d'arbres et de restaurants.
« Ta culture m'étonne, Théo, » ironisa Ganesh. « Je porte le nom du dieu éléphant. Il n'y a pas d'hôtel chez moi. Je me contente de faire de temps à autre une méditation, de me vider la tête. »
Théo s'immobilisa devant la carte suspendue d'un restaurant sobrement appelé Venezia. De nombreux clients se pressaient dans la première salle et sur la terrasse.
« Et tu y arrives ? À te vider la tête ? Même avec la biopuce ?
Ce resto m'a l'air sympa. On y va ?»«
Il y a longtemps que j'en avais pas mangé une comme ça !»
dit Théo en repoussant son assiette.
« Elles ne sont pas aussi onctueuses à Paris. »«
Grasse, tu veux dire ?» corrigea Ganesh. « 10 grammes de lipides, 22 grammes de glucides, 200 calories pour 100 grammes. »
Théo émit un petit bruit qui hésitait entre le rire et l'éructation.
« Il reste deux menus différences culturelles à Nilopa. On continue de manger plus gras à New York. D'ailleurs, il y a deux fois plus de corrections génétiques d'obésité ici que dans les deux autres villes. À Londres, ce sont les dépressions qui dominent. À Paris, l'obsession du rajeunissement.
C'est vrai que vous autres, les Parisiens, vous avez toujours été obsédés par votre silhouette. »
Intervint une voix teintée d'un fort accent new-yorkais. Théo se retourna vers l'homme qui les avait apostrophés. Un grand gaillard assis à la table voisine, cheveux en pétard et épaules carrées, vêtu d'un costume à carreaux que seul un anglo-saxon pouvait avoir l'idée de porter.
« Peut-être, » répliqua le fouineur. « Mais nous, au moins, on ne fourre pas notre nez dans les conversations des autres. »
L'homme but une gorgée de café, reposa sa tasse sur la soucoupe et se pencha vers les deux fouineurs avant de répondre à voix basse.
« Désolé, je ne voulais surtout pas être grossier. Je dois vous parler et cet endroit me semble parfait. Je m'appelle Tom, Tom O'Brien. »
« Enchanté, Tom O'Brien. Moi, c'est Théodore Bernier, je sais. Et vous, vous êtes Ganesh Parvati. »
Les traits de Théo se tendirent. Ganesh s'étonna que son équipier ne parvienne pas à mieux masquer sa stupeur malgré son expérience de fouineur. Les autres clients ne semblaient pas s'intéresser à la conversation.
« Vous m'avez l'air bien renseigné, » souffla Théo. « Vous n'êtes pas un citadin lambda, n'est-ce pas ?»
Tom O'Brien se leva, immense, plus de 2 mètres sans doute.
« 2 mètres 12.
Vous permettez que je m'assoie à votre table ?»«
Avons-nous vraiment le choix ?»
maugréa Théo.
« Vous savez bien que la liberté est l'un des premiers amendements de Nilopa. »
Tom O'Brien ponctua sa déclaration d'un large sourire, dévoilant des dents d'une blancheur surnaturelle, et se ménagea une petite place entre les deux fouineurs.
Disons que nos merveilleux principes ont subi pas mal d'entorses depuis la fondation de la CE, grinça Théo. Je parierais que vous nous suivez depuis un bon bout de temps et que vous n'avez rien perdu de nos conversations.
Tom O'Brien s'inclina pour rendre hommage à la perspicacité de son interlocuteur.
Tout juste. Nos biopuces nous permettent de voir dans la nuit et d'entendre à distance. Mais je n'ai nullement l'intention de vous piéger. Je cherche seulement à entrer en contact avec vous à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. »
O'Brien balaya les environs d'un regard panoramique.
« Je viens vous parler des... Comment les appelez-vous déjà ? Shadows. Ah oui, les ombres. On sort justement des bureaux des grubs.
Comment dites-vous chez vous ?
Les fouineurs. Fouineurs, yes. Ça vient d'un petit animal qui fourre son museau partout, n'est-ce pas ? Chez nous, c'est nettement moins glamour. Grub veut dire à la fois fouillé et larve. Savez-vous comment nous surnomment les New-Yorkais ? Les trash grubs, les larves d'ordures. »
Théodore lança un regard en coin à Ganesh. Le serveur débarrassa la table et leur demanda s'ils désiraient un café. Ganesh commanda un thé au lait et Théo un expresso bien serré.
« Larve ou pas, vos collègues ne nous ont pas semblé très accueillants ce matin, »
reprit Théo.
« Ils obéissent aux ordres, » affirma O'Brien.
Ganesh entrevit la crosse jaune de son tasse dans l'entrebâillement de sa veste.
« La municipalité de New York a l'intention de jouer solo dans cette affaire. Elle considère Londres et Paris comme des... quel est le terme déjà ? Boulets. Elle a décidé de prendre le leadership de Nilopa et, si elle rencontre une trop forte résistance, de faire sécession. Ce sera la fin des cités unifiées. » Le retour à un ordre archaïque basé sur les rapports de force.
Théodore signifia son incompréhension en écartant les bras.
Dans quel but ? Le système des CU nous a permis de passer la période délicate qui a suivi l'hiver nucléaire, et même si elles ne sont pas destinées à durer éternellement, je crois qu'il est encore bien trop tôt pour les démanteler.
Vos conclusions rejoignent les nôtres.
La fin des cités unifiées marquerait le coup d'envoi d'une nouvelle ère, de chaos incontrôlable et très délicate.
Les grubs ne seront donc pas d'accord avec la municipalité ?
Ganesh remarqua que leur interlocuteur gardait une main en paravent devant sa bouche, comme s'il craignait d'être épié par des spécialistes de la lecture sur les lèvres.
Une partie des grubs, une toute petite minorité pour être tout à fait exact, qui pense que le problème posé par les ombres dépasse de loin les querelles et les rivalités habituelles. Nous sommes même persuadés que les premières attaques des ombres ne sont que des prémices, des essais qui préludent à une extermination sur une plus grande échelle.
Qui serait assez puissant ou technologiquement avancé pour commettre de tels massacres sans laisser une seule trace?
La technologie, vous l'avez dit. C'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Nous n'avons pas affaire à des criminels ordinaires.
On n'a même pas la plus petite revendication à se mettre sous la dent. Pas de demande de rançon, pas de motif, rien.
Tom O'Brien marqua un temps de silence. Ganesh se demanda s'il n'était pas relié à d'autres biopus, s'il ne formait pas une mêlée avec quelques-uns de ses confrères.
Probabilité 56%.
Il y a nécessairement un motif.
Vous avez une idée ? Intervint Ganesh.
Une petite, qui demande confirmation.
Vous ne pouvez pas nous en dire plus ?
J'attends de savoir si la piste est sérieuse avant de vous en parler. Pour l'instant, nous souhaitons seulement établir un premier contact avec certains confrères de Londres et de Paris. Nous souhaitons avoir votre accord de principe pour mettre en commun nos données et travailler ensemble, en dehors, en dépit, devrais-je dire, de nos dirigeants.
Pourquoi refusez-vous de nous révéler votre petite idée ? Grogna Théo. Ce serait pourtant une belle preuve de confiance, une excellente façon d'entamer notre collaboration.
Vous avez raison, mais il vaut mieux pour l'instant garder certaines informations secrètes. Je ne vous connais pas après tout, même si j'ai pris quelques renseignements sur vous. Je sais que vous, Théodore, vous ne portez pas la hiérarchie dans votre cœur, et que vous, Ganesh, vous êtes également quelqu'un d'indépendant. Nous avons étudié votre profil psychologique. Notre groupe ne fait confiance à personne et a besoin de têtes de pont fiables à Londres et à Paris. Nous pensons que vous pouvez être nos intermédiaires avec les fouineurs de Paris.
Théodore attendit, les mâchoires crispées, que le serveur dépose les tasses devant eux et s'éloigne en direction d'une autre table.
Pas très sympa de mener des enquêtes sur les collègues, Tom. La situation est urgente. Nous n'avons plus le temps de ménager les susceptibilités. Si nous n'agissons pas, entre nous, je veux dire, en dehors de la hiérarchie, alors je ne donne pas cher de nos peaux. Pas cher de ni l'opa.
Qu'est-ce que vous attendez de nous ?
La même chose que vous pouvez attendre de nous. La mise en commun de nos données, toutes, sans exception. Des échanges, d'éventuelles collaborations sur le terrain, évidemment officieuses, et cela jusqu'à ce que nous ayons réussi à arrêter ces putains d'ombres.
Théo trempa ses lèvres dans sa tasse. L'amertume du café le fit grimacer.
En gros, vous nous demandez d'agir en toute illégalité, de mordre la main qui nous nourrit.
Qui vous parle de la mordre ? Objecta Tom.
Il suffit de l'esquiver. À en croire ce que j'ai découvert dans les archives, vous avez déjà pris des libertés avec la hiérarchie, Théodore.
C'est ce que nous recherchons. Des esprits libres.
Ganesh but une gorgée de thé avant de demander « Vous êtes sûr qu'on ne nous écoute pas en ce moment ?»«
Rassurez-vous, ma biopuce est équipée d'un système de brouillage très performant. Notre conversation ne sortira pas de ce restaurant. »«
Pas mauvaise les pizzas d'ailleurs, n'est-ce pas ?»«
Efficacité estimée du brouillage, 92%. »«
Excellente. » »«
De même, les données que nous échangerons seront transférées dans une mémoire spéciale, inviolable. »
Existe-t-il encore des espaces inviolables ?
Il suffit de les créer. Si cela ne suffit pas, nous échangerons verbalement, physiquement. Avec le tube, il ne nous faut que 7 heures pour passer d'une ville à l'autre. Londres pourrait être notre point de rendez-vous.
Théodore se tourna vers son équipier.
Qu'en penses-tu, Ganesh ?
Eh bien, d'après ce que j'ai déduit des paroles du maire, d'après ce que nous dit Tom... Et en tenant compte de ta propre défiance envers nos dirigeants, Théo, je pense que nous devons collaborer. Un sourire égaya la face cabossée de Théodore.
Ça m'aurait déçu que tu penses le contraire.
Les yeux gris verts de Tom se posèrent tour à tour sur ses deux interlocuteurs.
J'en conclus que vous accueillez favorablement ma proposition.
Putain, Tom, j'en suis.
Une grande excitation perçait dans le chuchotement de Théodore.
Et Ganesh aussi.
Tom se leva et resta un petit moment penché au-dessus des deux fouineurs, à la façon d'un grand échassier.
Vous m'envoyez ravi. Je vous recontacte rapidement.
À Paris?
J'essaierai avant votre départ de New York.
Théo salua le grub d'un geste de la main.
Faudra pas tarder. On repart demain.
New York était considérée comme la ville la plus dangereuse de Nilopa. Contrairement à Londres et Paris, cités qui avaient traversé une très longue histoire, New York avait connu un développement fulgurant, illustré par la prolifération et le gigantisme de ses tours. Une simple balade dans ses rues et ses canaux étroits suffisait à donner le vertige. Plaque tournante de l'immigration entre les 18e et 20e siècles, la ville avait été le théâtre d'affrontements impitoyables entre les différents groupes venus d'Europe, d'Amérique du Sud, des Caraïbes, d'Afrique ou d'Asie, qui tentaient d'en prendre le contrôle. Ces flambées de violence étaient probablement les réminiscences de ce passé chaotique, douloureux. Sans doute fallait-il également y voir une expression du désespoir de la population, qui voyait sa ville s'enfoncer inexorablement dans les eaux.
On nous suit, Ganesh.
Théo avait prononcé ces mots sans se retourner. Ganesh les avait repérés quelques minutes plus tôt. Deux types habillés de noir qui marchaient une vingtaine de mètres derrière eux.
Je sais. Tu crois que leur présence a un rapport avec notre conversation dans le restaurant?
Il y a des chances.
Ils traversaient une rue étroite et populeuse. Les chances étaient faibles que leurs poursuivants lancent leur attaque au milieu de la foule, vomie par les portes des immeubles, les barges et les avenues perpendiculaires.
Le brouillage de la biopuce de Tom n'était peut-être pas si efficace que ça, reprit Théo. Ou pire, on se sert de lui pour repérer les brebis galeuses. Quoi qu'il en soit, il faut nous débarrasser de ces deux types.
Tu crois qu'ils veulent
nous éliminer? Nous proposer une promenade sur un bateau? J'ai pas envie de leur demander. Voilà ce que je te propose. On tourne dans la prochaine rue à droite, on cavale, et s'ils nous poursuivent, on essaie de les semer dans ce putain de labyrinthe.
On va tomber sur des canaux à droite, objecta Ganesh.
Probabilité 72%. Prions le ciel pour qu'il y ait un pont ou une passerelle.
Prêt?
Prêt. On fonce!
Ils s'élancèrent dans la première avenue à droite, louvoyant entre les passants, bousculant quelques groupes au passage. Des cris de protestation enflèrent dans leur sillage. Comme prévu, l'avenue rectiligne se jetait plusieurs centaines de mètres plus loin dans un réseau de canaux bordant le fleuve Hudson. D'un coup d'œil par-dessus son épaule, Ganesh vit que les deux hommes en noir s'étaient à leur tour mis à courir et qu'ils comblaient rapidement l'intervalle. Il avisa une passerelle métallique un peu plus loin et ralentit l'allure pour permettre à Théo de revenir à sa hauteur.
« Par là !»
Théo, déjà à bout de souffle, acquiesça d'un hochement de tête. La sirène grave d'un grand bateau glissant sur le fleuve transperça la rumeur de la ville. Ils gravirent les marches 4 à 4 et foncèrent sur la passerelle large de 2 mètres et flanquée de hautes grilles. Une poussette aux énormes roues barrait le chemin de l'autre côté. La jeune femme qui la poussait, affolée, se tassa comme elle le put sur un côté. Ganesh vit leurs deux poursuivants déboucher à leur tour sur le passage.
« Merde, ils se rapprochent !» « Passe devant !»
gémit Théo.
« Je te retarde !»
Le plancher en alvéole vibrait sous leurs pas et sous ceux des hommes lancés à leurs trousses. Ils se faufilèrent dans l'étroit espace entre la poussette et la grille.
« Encore un petit effort. Il y a un grand magasin devant. On pourra les semer. »
Ganesh désignait l'enseigne aux lumières vives dominant le canal d'un côté et le fleuve de l'autre. L'escalier de la passerelle donnait sur une plateforme qui longeait la façade de l'immeuble de 6 étages, tous occupés par le magasin.
« On peut aussi demander aux biopuces de neutraliser leur système nerveux !»
halta Théo.
« Ils sont sans doute protégés par des brouilleurs !»«
Probabilité 76%. »«
Courage Théo, on y est presque !»
Alaric Brognier s'engouffra dans l'antichambre où Jules Richebourg, assis dans un fauteuil en cuir, regardait d'un œil morne les informations défilant en boucle sur l'écran vertical transparent déployé devant lui. Les ombres y tenaient une place écrasante.
« Où sont passés ces satanés fouineurs, Jules? Je leur avais pourtant donné rendez-vous dans ma suite à midi. »
Jules jaugea le maire d'un bref coup d'œil. Costume neuf, mine renfrognée, œil sombre, humeur massacrante. La réunion avec les maires de New York et de Londres s'était révélée décevante. Et on n'avait pas installé la délégation française dans le même hôtel que d'habitude. Raison officielle, sécurité.
Les policiers d'élite qui les accompagnaient avaient dû passer chaque pièce au peigne fin pour s'assurer qu'elle ne recelait pas de micro ni d'autres systèmes de surveillance.
« Aucune nouvelle, monsieur. »
Alaric Brognier se mordilla la lèvre inférieure. « Les fouineurs ont tendance à n'en faire qu'à leur tête. Il va falloir les reprendre en main, y compris le premier d'entre eux. »«
Caton ?» releva Jules. « Vous n'avez pas confiance en lui ? C'est pourtant vous qui l'avez nommé à la tête du corps des fouineurs. »
« Lui ou un autre, le choix n'était pas facile. J'ai pas confiance en beaucoup de monde. »«
Pas même en moi, monsieur ?» demanda Jules sans se retourner.
Alaric Brognier marqua un long temps de silence, les yeux rivés sur l'écran. La décoration de la pièce, toile anti-pollution, couleur perle, semblait dater du temps d'avant les cités.
« Il faut que vous me retrouviez ces deux fouineurs, » reprit le maire.
« Je veux savoir s'ils ont réussi à recueillir de nouvelles données chez les grubs new-yorkais. »
Jules Richebourg s'agita dans son fauteuil.
« Je contacte les Gémines de Paris. »«
Risqué, » objecta le maire. « Leur juridiction s'arrête au périmètre de Paris. » Si les New-Yorkais s'aperçoivent que nous débordons sur leur territoire, ils vont encore nous traîner devant le tribunal administratif de la CU. »
L'adjoint se leva et se plaça face à son interlocuteur.
« Si nous ne prenons pas le risque d'appeler les Gémines, monsieur, nous n'avons aucune chance de localiser nos deux hommes.
Nous attendrons donc qu'ils se manifestent. Et ces deux crétins ne perdent rien pour attendre. »
« Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur ?»
Jules Richebourg n'attendit pas la réponse du maire pour sortir. Une fois seul, Alaric Brognier augmenta le son de l'écran d'un claquement de doigts et activa son endophone d'une pression de la langue sur l'une de ses dents.
Demande d'accès au domaine crypté de l'hôtel de ville de Paris.
Demande d'accès au domaine crypté de l'hôtel de ville de Paris.
Le code d'accès, s'il vous plaît,
répondit une voix synthétique.
X C A V 2 3 H K 9 5 B Z.
Un instant, s'il vous plaît.
Accès autorisé.
S'ensuivirent quelques instants de silence, bercés par un léger grésillement.
Qui sollicite une audience ? Demanda une autre voix.
Alaric Brognier.
Un instant, s'il vous plaît, reconnaissance vocale.
Un temps.
Bienvenue, monsieur le maire. Quoi de neuf à New York ?
Nos craintes étaient fondées. Les autorités de New York et de Londres ont conclu une alliance contre Paris. Ils cherchent à saper notre influence et imposer leur vision de la cité unifiée.
Ils croient me rouler dans la farine, ces idiots. On m'a rapporté chaque mot, chaque virgule de leur conversation.
Devons-nous mobiliser immédiatement la fraternité ?
La maintenir en alerte, en tout cas. La guerre sera bientôt déclarée. Les ombres ont précipité le mouvement.
La guerre ? Il ne s'agit que d'une lutte d'influence, monsieur.
Quand une cité manœuvre pour prendre le pouvoir sur deux autres cités, la guerre est le seul mot qui convienne.
On aurait tendance à penser que les hommes sont solidaires lorsque les temps sont durs. Il n'en est rien. C'est alors qu'ils se montrent féroces, impitoyables, hermétiques à la pitié. Malheur et méchanceté forment un couple inséparable. Proverbe de Trois Aubes. Pays hors site.
Je n'ai jamais su pourquoi on avait baptisé Trois Aubes l'agglomération des bords du fleuve Seine. Était-ce parce qu'elle était issue du regroupement de trois anciennes cités des temps d'avant la guerre nucléaire, et parce qu'elle était située à l'est de cette ancienne région qu'on appelait France ? C'est l'explication la plus plausible, mais elle ne me satisfait pas vraiment. Quoi qu'il en soit, Trois Aubes était un entassement bordélique de baraques de bois, de tôles et de tissus qui répandaient une odeur pestilentielle à des lieux à la ronde. Les habitants ne prenaient plus le soin d'enterrer ou de transporter leurs déchets. Les chemins entre les habitations étaient de véritables fleuves de déjections traversés de passerelles construites de briques et de brocs. Malheur à vous si les planches rongées par l'humidité se brisaient sous vos pas. Non seulement vous étiez la risée des passants et des riverains, mais vous étiez agressé par les gros rats noirs pullulant dans les fossés. Et, si vous vous en sortiez indemne, vous aviez pour des jours et des jours à vous débarrasser de l'odeur. Pour vous laver, vous n'aviez pas d'autre choix que de vous rendre près d'une source d'eau fraîche distante d'environ 10 lieues. Une expédition dangereuse. Les clans qui vivaient près des sources ne respectaient aucune règle et pouvaient vous dépouiller avant de vous saigner pour le seul plaisir de vous entendre couiner comme un animal qu'on vide de son sang.
Delune et Naya poussèrent la barque dans les roseaux. Yosp attendit qu'elle soit échouée en partie sur la grève boueuse pour en descendre à son tour. Le vent amplifiait la rumeur de l'agglomération qui apparaissait entre les frondaisons.
« On la planque dans la végétation, » De Lune coupa quelques branches pour recouvrir l'embarcation. Elle pourra nous être utile.
T'es ouf ! Glapinaya. Je monte plus jamais là-dedans. J'ai failli 1000 fois crever de trouille.
T'es pas morte, non ? Et on est moins fatigué que si on avait dû faire le chemin à pied.
Je sais pas ce qu'il te faut, De Lune. Ce satané courant contraire nous a obligés à ramer comme des dingues. J'ai plus de bras.
Les ombres crépusculaires s'allongeaient pour former l'avant-garde de la nuit. De Lune acheva tranquillement de camoufler la barque.
On doit trouver d'urgence des vêtements à Yosp. S'il débarque comme ça en ville, il va se faire agresser.
Le petit homme tendit le bras en direction de l'agglomération.
« Les heures me disent qu'il y a du danger dans cet endroit !»
déclara-t-il de sa voix chevrotante.
« C'est pas une prédiction, ça !» lança Naya. « Tout le monde sait qu'il y a du danger dans les agglomérations. »«
Tu peux préciser ce que tu veux dire, Yosp ?» demanda De Lune.
« Les heures me montrent un homme méchant qui veut te tuer. Tuer De Lune !»«
Est-ce qu'il me tue ?»«
Je ne sais pas. Je ne sais pas. »
De Lune glissa sa serpe sous sa veste, dans la ceinture de son pantalon, et rejoignit les autres sur la berge.
« On peut donc dire que le futur n'est pas écrit, » fit-il avec un sourire.
« Voilà ce que je propose. Je vais en ville et je reviens vous chercher dès que j'ai récupéré des fringues pour Yosp. »«
Avec quoi tu vas les payer ?» demanda Naya.
« Je sais pas ce qu'ils utilisent comme argent dans le coin. Je me débrouillerai autrement. »
Naya s'avança vers lui comme pour l'empêcher de passer. « Je crois pas que ce soit une bonne idée de nous séparer. » Tu as dit dans la grotte qu'à deux, on augmentait nos chances de survie, que c'était mathématique.
On peut pas aller tous les trois dans l'agglomération, argumenta De Lune.
Yosp attirerait l'attention.
Tu restes ici pour veiller sur lui pendant que je vais lui chercher des vêtements.
Des lueurs de terreur dansèrent dans les yeux de Naya.
Putain, De Lune, tu veux vraiment me laisser seul avec ce...
Demeurer ?
T'as un flingue, 3 balles. De quoi tenir les curieux à l'écart.
C'est quoi un demeurer ?
Bêla Yosp.
« Un fêlé dans ton genre, un taré, un mec pas normal, quoi !» siffla Naya.
« Je suis pas... normal ? Putain, t'as vu ta tronche ?»
De Lune resserra les pans de sa veste. « Dents de rat dit qu'on ne doit pas juger les gens selon leur apparence, Naya, qu'on risque de passer à côté de leur richesse.
Tu sais que t'es vraiment gonflant avec ton dent de rat ?»
Tout à l'heure, Yosp nous a prévenu de l'arrivée des cavaliers de l'Apocalypse. Tu ne devrais pas l'oublier.
« Restez planqué dans la végétation, je reviens dès que je peux. »
Naya tira son pistolet et le tendit à De Lune.
« Prends mon flingue au moins. »
Les membres du clan du haut lieu ne portent pas d'armes. En cas de besoin, j'ai ma serpe.
« J'ai froid !»
gémit Yosp. De Lune observa un moment le ciel et les environs. « Le soir va bientôt tomber. Naya, couvre-le de branches et de feuilles en attendant mon retour. »«
Fais pourtant pas si froid que ça !» objecta Naya. On n'est pas encore en plein hiver.
Il a toujours vécu dans une grotte où la température est constante. Il n'est pas habitué au changement de température. Pareil pour ses yeux. Tu as vu comme il reste fermé? Il supporte mal la lumière du jour. Il ne doit pas voir grand-chose.
Ça brûle. Ça fait mal,
confirma Yosp. J'essaierai aussi de te trouver des lunettes de soleil pour que tu puisses peu à peu t'adapter.
Des lunettes? Gloussa Naya. Il n'y en a pratiquement plus et les rares qu'on voit, elles valent une fortune.
On ne sait jamais, avec de la chance. De Lune écarta les herbes et s'éloigna en direction de l'agglomération. Une inquiétude soudaine fendit Naya de haut en bas, comme une lame ébréchée.
Fais gaffe à toi, De Lune.
Toi aussi, Naya. Et veille sur Yosp. On n'aimait pas beaucoup les visiteurs à Trois-Aubes. On n'aimait pas les gens de manière générale. S'ils ne faisaient pas partie de votre clan, on les regardait comme des ennemis. S'ils faisaient partie de votre clan, on les regardait comme des envieux, qui ne rêvaient que de vous piquer votre maison, votre femme, votre homme, votre fille, vos esclaves ou vos meubles. Ah si, il y avait un cas où on appréciait les nouveaux venus, quand ils étaient seuls et sans défense. Alors la course commençait. Il fallait être les premiers à capturer le ou les inconscients qui venaient en ville sans être placés sous la protection d'un clan, et pouvaient vous assurer un revenu confortable. Pour peu qu'elle attire la convoitise d'un chef de clan ou de ses seconds, une fille en bonne santé vous rapportait jusqu'à 500 traubes, la monnaie de 3 aubes, ouais, 500 traubes. Après, ce que les acheteurs faisaient de leurs marchandises, ce n'était plus notre affaire. Mais les hurlements qu'elle poussait transperçaient les cloisons de tôle et nous empêchaient parfois de dormir.
Hé, hey, toi !
De Lune s'empara de la paire de lunettes posées sur le rebord de la fenêtre et détala.
Arrêtez-le, bordel !
Ce petit salopard vient de me piquer mes lunettes de soleil !»
Il s'engouffra dans une ruelle sinueuse bordée de chaque côté de baraques de bois et de tôles. Il perçut le bruit des pas des hommes lancés à sa poursuite et tenta d'accélérer l'allure. Des cris résonnaient derrière et devant lui. Il déboucha sur une sorte de quai longeant un large égout à ciel ouvert où pullulaient de gros rats noirs. Les lueurs du crépuscule ne parvenaient plus à repousser l'obscurité naissante. Au moment où il allait s'engager dans une venelle perpendiculaire, une masse lui frappa le crâne et les épaules et le déséquilibra. Il s'effondra de tout son long, voulut se relever, mais des bras puissants l'en empêchèrent. Il sentit un souffle précipité et chaud sur sa nuque. La paire de lunettes lui échappa des mains. Une odeur fétide lui fouetta les narines.
« Pas la peine de débattre, petit salopard, t'es coincé !»
Ils étaient plusieurs autour de lui. Le plus costaud de la bande le maintenait allongé sur les pierres rugueuses pavant le sol.
« Putain de belle serpette que t'as là !»
s'exclama ce dernier.
« J'ai toujours rêvé d'en avoir une comme ça !»
Il saisit le manche de la serpe et l'arracha de la ceinture de deux lunes, dont les soubresauts ne réussirent qu'à rendre sa position plus douloureuse.
« Lâche-moi !»
gémit-il.
« Rends-moi ma serpette !»
Son agresseur se releva et le toisa d'un air provocateur. Il portait comme les autres des vêtements de cuir grossier. La lumière rouille soulignait les scarifications géométriques sur son visage et ses bras.
« Viens la chercher, mec !»« Laissez-le-moi, ce petit salopard !»
Delune reconnut la silhouette de l'homme qui approchait. Ventre tendant la large chemise taillée dans une toile grossière, hautes bottes pointues, visage bouffi, chevelure bouclée poivre et sel, balafre sur la joue gauche. L'homme dont il avait dérobé les lunettes. De la pointe de ses bottes, le nouvel arrivant frappa à plusieurs reprises Delune, qui se recroquevilla sur lui-même pour offrir le moins de surface possible au coup.
« Tu sais combien ça vaut une paire de lunettes ?»
grogna l'homme.
« Au moins 100 troubles ! Je te jure que si elles sont cassées !»
Il se pencha pour ramasser les lunettes et se releva en les examinant.
« T'as de la chance, y a pas de dégâts. T'es de quel clan ?»«
Du haut lieu, »
répondit Delune en grimaçant.
« Le haut lieu ? Je connais aucun clan qui s'appelle comme ça. »
Une femme âgée intervint d'une voix chevrotante.
« Je connais tout le monde à Trois-Aubes, et j'ai jamais vu sa tête, ni de près ni de loin, Dark. Mais t'as vu que ce gars-là est pas d'ici. »
L'homme à la balafre glissa les lunettes dans la poche de sa chemise et se tourna vers la vieille femme, petite chose toute ridée, enfouie sous un amoncellement de guenilles.
« Pas d'ici, hein ?»
marmonna-t-il en se frottant le menton.
« Tu vas venir avec moi, mon gars. »
Le garçon costaud qui avait récupéré la serpe posa le pied sur la hanche de Delune.
« Il n'est pas à toi, Dark. C'est nous qui l'avons empêché de cavaler. Ça me paraît juste qu'on partage le fric. »« Il a raison !»
renchérit un membre de la bande. Le dénommé Dark gonfla le ventre.
« C'est à moi qu'il a essayé de piquer les lunettes. Si j'avais pas hurlé, personne n'aurait su qu'il n'était pas de Trois-Aubes.
Si on l'avait pas coincé, Dark, »
riposta le costaud,
« t'aurais tout perdu, tes lunettes et le fric qu'il peut te rapporter. »
« Je te laisse sa serpette, Scott. »«
Te fous pas de moi, elle voit à peine 5 troubles. »«
Vous êtes pire que des charognards, » vitupéra Dark. « D'accord. » « La moitié pour moi et la moitié pour vous. 40 pour toi, 60 pour nous, à prendre ou à laisser. À condition que je le vende moi-même. Si tu veux, Dark, mais va surtout pas essayer de nous doubler. À vue, il vaut entre 350 et 400 troubles. On viendra réclamer notre part après la vente. »«
C'est un plaisir de faire des affaires avec vous, les gars. »
Dark saisit Delune par le poignet et le contraignit à se relever.
« Viens avec moi, toi. On va te mettre une jolie laisse pour que tu ne puisses pas te sauver. » J'en ai toujours une sur moi.
Delune se débattit avec l'énergie du désespoir, mais les doigts épais du gros homme restaient refermés sur son poignet avec la force d'un étau.
Lâchez-moi ! Cria-t-il. Je suis un guérisseur ! Chez moi, les guérisseurs sont sacrés !
L'œil sombre de Dark s'arrondit.
Qu'est-ce qui me prouve que t'es guérisseur ?
Le serpent tatoué sur mon bras. Il symbolise la connaissance, la guérison. Lâchez-moi !
Dark lui glissa une corde à nœud coulant autour du cou et la resserra jusqu'à ce que sa voix s'étrangle.
« Aucune importance de toute façon. À Trois-Aubes, les guérisseurs sont des gens comme les autres. »
L'haleine du gros homme empestait encore plus fort que les égouts proches.
« Plus tu hurleras et plus la corde se resserrera sur ton cou. Elle réagit aux vibrations. Elle est tressée avec des fibres d'étranglette, un chanvre mutant. Le mieux que t'aies à faire, c'est de te calmer. » Lâchez-moi, gémit De Lune. La corde se resserra encore. Il eut l'impression qu'elle lui sciait le cou. Il songea qu'il ne reverrait peut-être jamais Naya et en éprouva une tristesse infinie, déchirante, une tristesse qu'il ne connaissait pas. La nuit était tombée depuis un bon moment, une nuit sans étoiles ni lune. Les frondaisons frissonnaient sous la brise. Des craquements et des ululements brisaient régulièrement le murmure enchanteur de l'eau du fleuve.
« J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à De Lune, » chuchota Naya.
« J'ai froid, »
murmura Yosp. Elle se défit de sa chemise épaisse et, vêtue de son seul maillot de corps, l'attendit au petit homme.
« Prends ça, c'est pas grand-chose vu que je suis pas épaisse, mais c'est mieux que rien. Et puis on va se réchauffer avec des branches. »
Elle ramassa les branches arrachées par la tempête précédente et en recouvrit Yosp.
« Les heures me disent que De Lune va bientôt rencontrer l'homme méchant. »«
Tu veux dire qu'il est en danger ?»«
L'homme méchant veut le tuer. »
Naya souleva une grosse branche en ahanant.
« Fais chier avec l'homme méchant !» maugréa-t-elle. « On dirait une histoire pour les gosses. »«
Il est grand. Sa tête fait peur. On dirait un renan. »
Un quoi ?»
Un renan, une créature qui venait des fois dans la grotte pour manger les enfants.
Naya posa la grande branche au-dessus du tas qui enveloppait Yosp. Un grincement attira son attention. Elle posa la main sur la crosse de son pistolet.
Arrête tes conneries,
reprit-elle au bout de quelques instants. Vous aviez pas besoin de créatures monstrueuses pour manger les gosses. Vous vous en chargez vous-même.
On ne mangeait que les morts.
Mort ou pas, c'est dégueulasse de manger des êtres humains.
Pourquoi ?
Il n'y a que les dégénérés qui font ça.
C'est quoi un dégénéré ?
Un craquement retentit. Elle fit signe à Yosp de se taire. Elle crut percevoir un souffle et des bruits de pas. Les bruits s'éloignèrent peu à peu.
Putain ! Le coin est plus fréquenté que le noyau où j'habitais, souffla-t-elle. J'ai froid,
répéta Yosp.
J'ai froid !
Planque-toi sous les branches et les feuilles et arrête de te plaindre, putain ! Tu vas nous faire repérer.
Le petit homme se glissa sous les branches jusqu'à ce que son corps blême ait disparu.
Les heures me disent que des hommes vont venir.
Ici ?
Il me dit que des hommes t'enferment dans un endroit tout noir qui sent mauvais. Il y a des bêtes affamées qui tournent autour de toi, qui essaient de te mordre.
Naya se souvint que les prédictions de Yosp étaient souvent exactes. Son sang se glaça.
Charmant. Et toi ?
Je sais pas.
Alors le mieux est de la boucler, et on aura une petite chance de déjouer les prédictions du temps.
Les heures ne mentent jamais.
Naya faillit donner un coup de pied dans le tas de branchages. Elle se contenta de déverrouiller le cran de sûreté de son pistolet.
Putain, Yosp, tu me fous les jetons. Je te jure que s'ils viennent, ils ne mourront pas comme ça. J'ai 3 balles. Il y en a au moins 3 qui resteront sur le carreau.
J'ai faim.
Putain, tu sais que t'es chiant ? T'as qu'à manger de l'herbe, mon vieux. Y a rien d'autre dans le coin.
L'ululement sinistre d'une chouette retentit au-dessus d'eux. Ses propres habitants surnommaient Trois Aubes les tripes de l'enfer. L'été, un feu incendiaire brûlait au-dessus des têtes. Le froid glacial qui descendait avec l'hiver ne corrigeait pas cette impression de désolation. On basculait dans un enfer polaire où les démons errants dissimulaient leur trône sous des hardes épaisses et ravaudées. Le sang des malheureux crucifiés sur les portes gelait instantanément et formait de somptueuses dentelles pourpres. Les miséreux qui n'avaient plus de toit et plus assez d'argent pour se procurer de la nourriture mouraient de faim dans les fossés emprisonnés dans les glaces, et les rats dévoraient aussitôt leur corps. Bref, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, la vie n'était pas facile pour les habitants de Trois Aubes, et moins encore pour les malheureux prisonniers de leurs griffes. Dark déposa sur la table en bois une gamelle emplie d'un brouet chaud à l'odeur indéfinissable. De Lune avait tellement faim qu'il aurait de toute façon mangé n'importe quoi, même de la viande de rat.
« Tiens, mon gars, voilà de quoi te nourrir !» précisa son geôlier. « Va surtout pas croire que je t'ai pris en sympathie, mais mort, tu vaudrais plus rien. Déjà que t'es pas très épais. Considère donc ça comme un investissement. Vas-y doucement, pour pas que la corde se resserre. Ça m'embêterait d'être obligé de la couper. L'étranglette vaut son pesant de troubles. »
De Lune mangea à l'aide de la cuillère en bois posée à côté de l'écuelle, qui,
étant donné la couche épaisse qui la recouvrait, n'avait pas été lavée depuis des siècles. La puanteur de la maison rappelait, en pire, la laine de Dark. Des sièges de voiture défoncés servaient de canapés, des tonneaux de chaises. La table n'était qu'une ancienne porte posée sur quatre empilements de briques. De nombreux trous criblaient le plafond et les cloisons de tôle. Delune se demandait comment les occupants de la baraque évitaient les inondations les jours de pluie. Il mâcha un morceau de viande à la consistance caoutchouteuse et au goût musqué. « C'est du rat noir, » affirma Dark. « Ma femme sait très bien l'assaisonner. » Delune se força à avaler, se disant qu'il aurait besoin de toutes ses forces dans les jours à venir. « Qu'est-ce que vous comptez faire de moi ?»«
Tu nous as pas entendus, moi et les autres ? Je t'emmène à la prochaine criée. J'espère qu'il y aura du monde et qu'ils se battront pour t'avoir. » Un jeune type qui a l'air normal et sain, il n'y en a pas tant que ça dans le coin. Je bénis le ciel d'avoir oublié mes lunettes sur le rebord de ma fenêtre. »
Dark se cura les dents à l'aide d'une écharde, visiblement content de lui.
« Pourquoi m'achèterait-il ? »
« Ça dépend. Il y en a qui cherchent des serviteurs, d'autres voudront jouer un long moment avec toi avant de te découper en morceaux, d'autres t'offriront à leur femme ou à leur fille pour leur faire de beaux enfants. Chaque acheteur a ses raisons. Le principal, c'est que j'en retire au moins 400 troubles.
Que vous devez partager avec vos amis. »
Dark vérifia machinalement la corde passée autour du cou de Delune.
« Ces charognards, ce sont sûrement pas mes amis, même s'ils sont du même clan que moi. Pas question que je partage le moindre trouble avec eux. »
M'étonnerait qu'ils soient de cet avis.
Je leur réglerai leur compte à ces petites ordures. Pour 50 troubles, je n'aurai aucun mal à lever une bande de sourieurs. »
De sourieurs?
Dark jeta un coup d'œil derrière lui, avant de se pencher vers son captif et de répondre à voix basse.
« Des tueurs, si tu préfères. On les appelle comme ça parce qu'ils découpent de larges sourires dans le cou de ceux qu'ils sont chargés d'exécuter. »
La porte s'ouvrit en grinçant et livra passage à une femme revêtue de peaux de rat noir cousues les unes aux autres, et dont les queues, qui n'avaient pas été coupées, tressautaient à chaque pas. Son visage ridé, déformé, se couvrait de plaques sombres. Ses cheveux gris clairsemés laissaient entrevoir un crâne bosselé. Ses yeux ronds et vifs se posèrent un instant sur Delune.
« C'est quand même dommage de vendre un beau garçon comme ça à des détraqués, » soupira-t-elle. « Je te présente Gwenyl, ma femme, celle qui sait si bien accommoder le rat, » déclara Dark. « Détraqué ou pas, avec l'argent qu'il nous rapportera, tu seras bien contente de passer un hiver tranquille. »
Elle retira sa cape de peau de rat qu'elle accrocha à une patère faite, du moins Delune le présuma, d'anciens leviers de vitesse plantés dans une planche de bois.
« Ce que je pressens, moi, ce sont les emmerdements, » marmonna-t-elle. « Compte pas sur ceux du clan pour te venir en aide en cas de pépin. »« Je réglerai ça comme il faut, t'inquiète donc pas !»
se rengorgea Dark. Elle se retourna avec une étonnante vivacité pour une femme de sa corpulence et enfonça ses yeux luisants de colère dans ceux de son interlocuteur.
« Je t'ai déjà vu régler les problèmes, Dark, et ça me rassure pas. Le mieux que tu aies à faire, crois-moi, c'est de libérer ce garçon. On se débrouillera autrement pour passer l'hiver, comme d'habitude. »
« Et toi, le mieux que t'aies à faire, Gwenyl, c'est de la boucler, et de me laisser mener mes affaires à ma façon. »
Elle poussa un long soupir de protestation avant de lancer un regard désolé à Delune.